les voilà pas si j'y suis. Échappée belle.
L'échappée belle.
Salut, c'est Pénélope.
Salut, c'est Cristal.
C'est Maya.
L'échappée belle.
Salut, c'est Anna.
C'est René.
Échappée belle.
Échappée belle. Belle, belle, belle.
L'échappée belle sur CFM Rhodes.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur CFM Rhodes 107.9 pour la 12e échappée belle. À l'image du magazine Cosette, que nous aimons particulièrement ici, je vous invite à être plus féminine du cerveau que du capiton. Sans sourciller, hein, attention. Effectivement, à la une de ce magazine, donc Cosette de février, resplendit une Wonder Woman d'aujourd'hui. Alors nous aussi, on se la joue Wonder Woman à l'approche de la journée de la femme. Car, répétons-le, une journée internationale du droit des femmes, fixée arbitrairement le 8 mars, ne suffit pas. C'est tous les jours que l'on doit porter un regard bienveillant sur la jeune fille, la femme, la mère ou la grand-mère. Donc à toutes les Wonder Woman, Wunderfrau en allemand, Mujer Maravilla en espagnol et enfin Donna Meravigliosa en italien, les échappées belles et moi que nous sommes, on vous dédie cette émission. J'ai souhaité également traduire Wonder Woman en chinois et en arabe. J'ai vraiment essayé, je vous assure. Sauf que c'est quand même très compliqué. Par contre, ce sont des pays ou des contrées où la cause des femmes est à défendre en priorité. Donc au lieu de massacrer ces langues, osons le dire simplement en français, nous ne faisons qu'une. Et toutes les femmes ignorées, opprimées, bafouées, violées, battues et emprisonnées sont à ce micro aujourd'hui. Les échappées belles chroniqueuses de choc qui m'entourent aujourd'hui en la personne de René, bonjour René.
Bonjour.
En la personne de Maya, bonjour Maya.
Bonjour Angeline.
Également Pénélope.
Bonjour.
Et Cristal.
Bonjour.
Donc toutes les échappées belles à mes côtés seront, je suis sûre, dignes de la parole de ces femmes, dignes de leur foi, dignes du respect de la vie qui les anime à chaque seconde. Pour cette spéciale Wonder Woman, la rubrique « Ça nous botte » est bien entendu abordée sous le signe de la femme et de ses combats. Je me tourne vers Cristal qui va nous évoquer une femme qui a marqué l'histoire du Rouergue par ses engagements avant-gardistes, la citoyenne Sorgue.
Oui, je suis tombée récemment sur une information qui m'a titillée. Il paraît que moins de 6% des noms de rue portent celui d'une femme. Alors du coup, j'ai fait le tour du nom des rues de Rodez. J'en ai dénombré 7 sur 189, hein, en prenant uniquement les rues, hein, donc moins de 4%. On a Marie, Sainte-Catherine, Sainte-Barbe, et bon, dans une ville comme Rodez, c'est assez normal. On a aussi la comtesse Cécile, fille d'Henri II, comte de Rodez. Emma Calvé, célèbre cantatrice mayavoise, Geneviève de Grandmaison, qui a entre autres participé à la création d'Emmaüs à Rodez, et la citoyenne Sorgue, avec une place et une rue à son nom lors de la création de logements sociaux en 2014. Cette femme mériterait un livre à être toute seule. Antoinette Durand de Gros, née en 1864. Elle est la fille du médecin philosophe ruthénois Joseph-Pierre Durand de Gros. Journaliste, féministe et révolutionnaire engagée. Elle part en 1884, donc à 20 ans, au Brésil avec son mari pour développer une colonie fourriériste. La doctrine sociale utopiste du moment, qui défend une organisation basée sur la complémentarité des individus. C'est un échec. Elle revient dans l'Aveyron, fait une nouvelle tentative sur les terres familiales d'Arsac, mais les locaux n'apprécient pas vraiment qu'elle apprenne l'international.
Il paraît, oui, apparemment elle avait un surnom. Hein.
Voilà, et donc là, elle se fait appeler, elle-même choisit de se faire appeler la citoyenne Sorgue, mais on la surnomme la Femna del Diable. Oratrice exceptionnelle, elle devient la représentante de l'Aveyron au Congrès national du Parti socialiste. Elle est de tous les combats ouvriers en France et dans toute l'Europe, soutenant les femmes des mineurs de Decazeville, galvanisant les dockers de Douai. Un peu plus tard, en 1905, elle est à Limoges avec les ouvrières textiles, qui en ont assez du droit de cuissage. En 1906, à Courrières avec les leaders locaux qui ont entamé une grève à la suite d'une explosion dans les houillères. Explosion qui a fait quand même 1100 morts au passage.
C'est pas rien.
La même année, elle est à Londres, diffuse les idées syndicalistes et essaye d'organiser une action commune et une solidarité entre les travailleurs français et anglais. On la voit aussi aux côtés des 500 cabanières de Roquefort et puis au congrès de la SFIO où elle appelle à l'égalité des sexes et au droit de vote des femmes.
Oui, elle s'est battue pour ça, hein, longuement.
Énormément. Mmh. Elle sera en Italie, au Portugal, elle sera emprisonnée. Enfin bon.
Donc cette citoyenne Sorgue,
une aventurière. En 2013, elle exhorte les femmes à défendre leurs enfants.
Enfin, 2000...
Pardon.
2013,
j'ai dit 2013.
Tu veux qu'elle revienne. Tu veux qu'elle revienne.
Reviens, Toinette. Elle exhorte les femmes à défendre leurs enfants aux futures chairs à canon lors d'une réunion du comité féminin contre la loi des 3 ans. Elle est surnommée la belle anarchiste, Mrs. Trouble, la femme la plus dangereuse d'Europe.
Et oui, quand même. Et apparemment, elle était effectivement très, très critiquée. Hein. Parce aussi. Que trop avant-gardiste, justement.
Exactement, la Louise Michel à Véronèse. Et elle se plaisait à dire qu'elle avait été à la tête de 50 grèves.
Eh ben dis donc.
Voilà, une sacrée
nature. Il
faudrait
faire un film sur elle.
Ah, mais il y a vraiment de quoi faire, hein, moi, je trouve.
Elle finit mal, par contre.
Elle a un peu fini,
apparemment, misérable et seule à Londres, c'est ça ?
Avec des positions quand même antisémites et ultranationalistes sur la fin.
Donc, ça, j'ai pas moyen,
c'est pour ça.
Ça
qu'elle a été rejetée.
Ah, du coup,
et qu'elle est morte à Londres.
Un peu seule.
Voilà. Bon. Alors elle disait quand même, la question féministe est avant tout une question économique. Améliorer la situation des travailleuses, voilà le problème à résoudre avant tout.
Et oui, elle avait raison.
Elle avait raison. Mmh. Et alors, petite anecdote, on peut voir son buste au musée de Nipuech, buste Madame Covin.
Très bien.
Voilà.
Donc, citoyenne Sorgue, Antoinette Durand de Gros, qui a marqué l'histoire de Rodez et de l'Europe même. Donc, on va enchaîner sur un autre combat plus récent du féminisme avec Maya, je crois, qui est assez remontée encore.
Je suis un petit peu remontée sur cette affaire qui a eu lieu suite au tollé qui a été dû au festival de la bande dessinée d'Angoulême cette année. Donc je vais refaire un petit flashback sur ça pour recadrer un petit peu au niveau des faits. Donc la direction du festival avait présenté une shortlist donc de 30 dessinateurs retenus pour son grand prix annuel. Et suite à ça, il y a eu une grosse polémique. Mais pourquoi ? Parce que dans cette liste ne figurait aucune femme. Donc immédiatement, il y a un collectif qui s'appelle le collectif de créatrices de bandes dessinées contre le sexisme. Donc ce collectif a communiqué sa désapprobation, mais cela n'a provoqué aucune réaction. Il y a un homme qui est dessinateur qui s'appelle Riyad Satouf, dont je pense que vous en avez entendu parler parce qu'il a tweeté, et lui il a demandé à ce que son nom soit retiré de la liste, et cette affaire a pris donc la tournure d'une bronca, et du coup d'autres dessinateurs ont réagi dans la foulée, comme Johan Sfar et plein d'autres, hein. Et donc la direction du festival a rétropédalé en indiquant que les votants n'auront plus à choisir parmi une liste déterminée, mais en donnant les noms des dessinateurs et dessinatrices qu'ils souhaitent.
Donc ils ont bien réagi quand même, mais bon.
Ils ont bien réagi. On peut quand même s'interroger sur le fait que ce soit des mecs qui étaient médiatiquement entendus sur cette affaire. Mais bon, moi je me demande aussi, c'est ce qui m'a fait un peu réagir, d'où l'idée de cette chronique, si le 9e art n'est pas un monde d'hommes, ou si du moins cette idée ne s'est pas un petit peu installée. Bon, les raisons peuvent être multiples, hein. Bon, moi je dirais que ça remonte quand même aux origines de la BD. La BD, bon, pour resituer, c'est une variante de la caricature. Donc au départ, les auteurs donc féminines sont rares, et les personnages féminins aussi, donc à l'exception début 20e de Bécassine ou de l'espiègle Lily. Mais ces héroïnes, elles ont du mal à s'imposer.
Vous étiez surtout un peu bécasse, hein.
Aussi. Disons-le. Oui, aussi. Mais
c'était
voilà, il y avait surtout
lumière
ça,
qui
c'était quand même très
étages,
naïve.
Hein,
oui. Et puis, il faut savoir qu'elles ont été créées par des hommes, hein, donc il y avait très peu d'auteurs, donc j'insiste dessus. Et elles avaient quand même du mal à s'imposer parce que le personnage dominant, c'était l'aventurier, qui lui est toujours un homme célibataire. Rappelez-vous, Tintin, Spirou, Lucky Luke. Ce sont des éternels célibataires endurcis, jamais mariés, jamais fiancés. Il faut attendre quand même les années 70, c'est quand même tard, pour voir s'esquisser la nouvelle scène féminine, avec notamment Claire Bretéché, les Frustrées, en 1973 dans le Nouvel Obs. Suite à ça, une revue féminine est lancée, qui s'appelle Anana, et quand même qui sera censurée au bout de 9 numéros.
Eh bien, c'était sous Giscard, ça, non ?
Oui, tout à fait. Bon, cependant, il y a quand même l'apparition de nouvelles formes de BD, donc par des femmes, qui autorisent des récits plus intimes, comme Persepolis, bien sûr, de Marjan Satrapi, que je vous invite à lire, qui est vraiment magnifique.
Qui est un film aussi.
Et qui est devenu un film. Et sinon, une autre qui est devenue un film, Le bleu est une couleur chaude, de Julie Marot. Et autre phénomène qui va donner l'occasion à des créatrices de percer sans passer par l'édition, c'est le blog. Rappelez-vous, Pénélope Bagieu avec son fameux personnage Joséphine. Et enfin, le manga, qui est destiné plus aux adolescents, n'est pas non plus en reste. pour la BD féminine. Donc l'idée que la BD est un art de garçon pour les garçons, un peu le geek à lunettes, hein, avec le vieux pull, tout ça, c'est révolu. Comme aussi est révolue celle d'une idée d'une BD au féminin qui serait très girly, tout en lignes rondes et roses bonbons. Donc par ailleurs, la parité est de mise dans les écoles de BD. L'académie Brassard-Delcourt à Paris note quand même la moitié de dessinatrices, hein, par rapport à l'ensemble des élèves.
Mais après, leur métier, comment est-ce qu'elles en vivent?
Alors, c'est beaucoup dans l'édition jeunesse, hein, quand même, hein, souvent.
Hein. Elles se spécialisent là-dessus.
Mais il faut savoir qu'aussi, un tiers des éditeurs maintenant sont des éditrices dans la BD.
Donc, elles prennent un petit peu le pouvoir une autre forme.
Et il y a aussi une autre forme de BD, moi, que je trouve intéressante, qui est plus queer et militante, comme celle d'Alison Bechdel. Est-ce que pour autant, avec toutes ces avancées, est-ce qu'il y a moins de sexisme? Et ben, il semblerait que non, parce que moi j'ai vu un témoignage de Pénélope Bagieux dans un article du Monde, donc sur ce sujet, où elle dit qu'une histoire racontée par une femme sera toujours considérée comme un livre de femme, alors qu'une histoire racontée par un homme est un livre tout court. Donc moi je dirais, cette leçon à tirer de la polémique du Grand Prix d'Angoulême, c'est quand même à prendre comme un exemple typique de plusieurs phénomènes sociaux, parce qu'en fait le monde de la BD n'est ni plus ni moins sexiste que d'autres environnements. Malheureusement, il l'est tout autant.
Oui, continuons combat. Un sujet plus léger, je pense, avec René, qui veut nous faire part d'une nouvelle invention technologique pour les femmes enceintes.
Tout à fait.
Alors, on t'écoute.
On rentre dans un monde un peu moins violent, dans un effort des scientifiques de mieux comprendre le fonctionnement de bébés, de la grossesse et du rapport très étroit qui relie maman et le futur bébé. Donc, cette nouvelle invention s'appelle BabyPod. Alors, c'est une boombox, donc c'est une enceinte musicale qui va permettre, d'initier bébé à la musique avant même sa venue au monde. Et comment ça fonctionne? Alors, il faut déjà savoir que ça a été développé sur la base des études scientifiques qui prouvent les bienfaits de la musique et de l'importance de la stimulation neurologique chez les bébés en gestation. Et oui, l'ouïe est le premier sens à se développer chez l'embryon humain. Alors du coup, BabyPod s'utilise comme un tampon.
Carrément.
On y va. Allez.
On y va. T'écoutes.
Alors, pour le petit guide d'utilisation, on insère la partie libre, donc l'enceinte, comme un tampon, tout à fait, tout ce qu'il y a de plus classique. On le connecte ensuite. Ça fait beaucoup sourire. Je n'ai pas testé.
Non, hein. Allez. Si René, tu as tout testé, on le sait.
Donc le BabyPod vaginal, voilà. Exactement. On le connecte à son smartphone et à partir de là, on peut partager sa playlist préférée avec bébé.
Donc, tant qu'on met pas Skyrock ou autre chose.
On va éviter effectivement AC/DC ou des choses peut-être un peu violentes.
AC/DC quand même.
Il y a eu un concert, premier concert bébé in utero en décembre.
Alors on garde. Hein,
on adopte le BabyPod, c'est un super cadeau pour les futures mamans. Et pour plus d'infos, alors le prix c'est environ d'une petite centaine d'euros quand même.
D'accord.
Et pour plus d'infos, et bien sur internet BabyPod. Net.
D'accord, ils l'ont déjà lancé. Donc.
Tout à fait. Voilà. Alors, c'est tout récent, c'était en décembre dernier.
Ils s'ennuient, ces scientifiques masculins, des fois. Il faut bien les occuper. Pénélope, on va refaire un flashback aussi, un peu plus historique, donc, sur les femmes qui ont marqué l'histoire, mais développe un petit peu.
Ouais, alors, à la fois, je vais développer, à la fois, je vais être obligée de faire court. Hein. On entend souvent dire que les filles manquent de modèles pour oser se projeter à des positions fortes, que ce soit au sein de l'entreprise, de l'action politique, sociale ou citoyenne.
C'est vrai.
Alors, je voulais faire pour mémoire quelques femmes parmi les femmes qui ont permis de faire bouger les lignes. Pour mémoire, il y avait Olympe de Gouges. Je vous invite à vous intéresser à l'histoire de cette femme qui a été guillotinée à Paris en 1793.
Elle est de Montauban.
Tout à fait. Et qui est l'auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et de l'abolition de l'esclavage des Noirs.
Aussi,
donc elle aussi était très en avance sur son temps. Elle a demandé l'instauration du divorce, qui est le premier et le seul droit conféré aux femmes par la Révolution. Et elle a également participé à la demande des créations de maternité. Voilà, alors je vais très vite, je suis désolée, mais
donc,
c'est juste
Gouges
pour vous donner des noms que vous alliez chercher dans Médiathèque, Vidéothèque, des informations sur ces femmes-là.
Il y a une BD sur Olympe de Gouges qui est très bien faite.
Bon, voilà.
Donc Marie-France Larnaudy qui est avec nous du planning familial, vous confirmez que Olympe de Gouges est effectivement une personne à découvrir.
Tout à fait. Ensuite, il y a eu bien sûr Marie Curie dans l'univers des sciences, qui a quand même découvert le polonium et le radium, qui a reçu de nombreuses récompenses, dont le prix Nobel de physique en 1919. 1903 et de chimie en 1911. Puis de nombreuses récompenses. Ça a été la première à avoir enseigné à la Sorbonne, entre autres, et elle a voulu mettre ses découvertes au service de l'humanité. Là aussi, on voit qu'il y a toujours un fond d'humanité derrière ces femmes-là. Elle serait sûrement satisfaite de savoir que c'est une femme, Geneviève Al-Mouzni, qui est généticienne, qui est la nouvelle directrice de recherche de l'Institut Curie. Donc, ça continue. Hein,
oui,
voilà.
Oui, oui.
Plus proche de nous, il y a Simone Veil. Femme politique qui justement a dépénalisé le recours par une femme à l'interruption volontaire de grossesse. Bien sûr, là aussi, entre autres choses, intéressez-vous à son histoire.
Et au discours qu'elle a fait, qui est
magnifique,
poignant,
hein, enfin, est tout à fait poignant.
En 1975, je crois.
Voilà.
74, mais après le décret, c'était le 17 janvier 75, qu'on a fêté 40 ans l'année dernière.
Et donc, tout ce qu'elle a dû effectuer en coulisses auprès justement des politiciens hommes pour parvenir à ce qu'elle souhaitait.
Et forcément soutenue par son mari. Ça, elle le dit dans son livre. Il y a un combat à deux, en fait.
Ouais,
aussi,
mais souvent, pour que ce soit un homme ou une femme, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté, souvent, pour aider et épauler. Femme d'entreprise, Mercedes Hera. Elle est la présidente exécutive d'Avas, fondatrice et présidente de l'agence de pub française BETC, qui en 2012 est classée première agence française, une Wonder Woman de l'entreprise, et qui ne met pas de côté sa vie familiale. Anne-Sophie Pic. Qui a réussi à obtenir la troisième étoile pour son restaurant familial, puisque son père lui avait mis les pieds à l'étrier. Et elle est la première femme chef qui a trois étoiles depuis les années 50.
Ça, c'est énorme.
Voilà. Malala, alors excusez-moi pour la prononciation, je vais m'arrêter à Malala, du coup, ça sera mieux, qui a été prix Nobel de la paix 2014 à 17 ans, puisqu'elle défend justement le droit des filles à l'éducation. Et pour cela.
C'est une
indienne,
non?
Ouais, toute pakistanaise. Voilà. D'accord. Et justement, elle a été la victime d'une tentative d'assassinat suite à ses prises de position. Elle est aujourd'hui donc en Angleterre pour être protégée. Et beaucoup plus récemment, Aung San Suu Kyi. Oui. Hein, prix Nobel 91.
Enfermé 20 ans, non ?
Voilà, et qui, au bout de 30 ans de lutte, a réussi à imposer son parti donc en Birmanie. Et on attend de voir ce qui va se passer par la suite, parce que je pense que ça va pas être si simple, néanmoins, pour elle. Mais voilà, c'est encourageant et continuons à nous bagarrer pour les faire connaître et à leur côté.
Moi, je trouve que le point commun quand même de toutes ces femmes, c'est la ténacité.
Oui, oui. Puis un engagement, comme elle dit, pas personnel, très altruiste.
Altruiste aussi, oui.
Au dépend de leur vie, bien des fois.
Complètement.
Bon, bah, écoutez, donc pour rappeler les distances de sécurité avec la gente masculine, je vous invite à écouter une très belle chanson de Leslie Gore, « You don't own me ». En gros, tu m'appartiens pas.
Just
donc c'était Leslie Gore, You Don't Own Me. À présent, on enchaîne avec Entre vous et nous, tout est dit. L'invité de cette rubrique, en la personne de Valérie Imbert, se tient à mes côtés. Elle est secrétaire générale adjointe de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, la FDSEA de l'Aveyron. Également, vous êtes présidente de la section bovin-viande de l'Aveyron. Bonjour Valérie, merci de votre présence.
Bonjour à toutes, merci de m'avoir invitée.
Mais écoute, ça fait grand plaisir parce que donc vous êtes avant tout éleveuse de vaches au braque, donc ça c'est des gros bébés quand même qu'il faut savoir un petit peu maîtriser. Vous élevez également des broutards sur la commune de Saint-Santin. Donc moi, ce qui me vient en premier lieu, c'est je voudrais savoir comment vous êtes devenue agricultrice et plus particulièrement éleveuse de vaches au braque.
Alors merci, moi j'ai l'habitude de me présenter en me disant, avant d'être agricultrice, je suis maman de 3 enfants. Parce que pour moi, la vie familiale, c'est un combat. Et pour réussir dans le syndicalisme, en tant que femme, il faut réussir sa vie privée, professionnelle et syndicale.
Donc avant tout, vous êtes maman
Je suis maman et féminine avant tout, avant de porter la casquette agricultrice. Mais c'est vrai que mon mandat de syndicale et de défense du métier d'agricultrice, parce que c'est quand même un métier qui est assez masculin, de par le physique, j'aime à dire qu'on peut être agricultrice et être féminine.
On confirme.
Voilà, tout à fait.
Et alors comment vous êtes devenue justement agricultrice?
Donc je suis quand même fille d'agriculteur et pour tout dire j'ai fait des études agricoles et je m'étais jurée que je ne reviendrais pas
sur la ferme,
sur ce métier. Voilà. Et ensuite j'ai eu la chance de connaître mon mari qui était agriculteur mais je ne voulais pas m'installer. Donc j'ai eu un parcours, j'ai travaillé 10 ans à l'extérieur et ensuite j'ai eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants et concilier la vie de maman avec un travail à temps plein c'est très dur. Et j'ai eu l'opportunité de m'installer et avec mon mari, on a travaillé ensemble. Et l'avantage, c'est qu'on a une vie privée, professionnelle et on peut caler notre travail sur les enfants. Et c'est vrai que moi, je voulais vivre pour moi. J'ai la chance d'avoir un mari qui est très compréhensible. Et c'est vrai que dans la plupart des combats, une femme ne peut avancer aussi grâce au soutien de son mari. Et j'ai la chance que mon mari m'aide beaucoup.
D'accord. Et donc justement, votre journée type d'agricultrice aujourd'hui, c'est quoi? Vous vous levez à quelle heure, par exemple? Soyons concrets, concrets.
C'est une journée très mouvementée où on court tout le temps. Moi, je me lève tous les matins à 6h30. Donc, avec mon mari, on se partage. Moi, je gère la partie enfant. Oui. J'aime bien déjeuner avec mes enfants, discuter avant de les amener au bus. Et après, ben, c'est à fond. On regarde la montre.
Vous arrivez à manger, à prendre une pause à midi?
Oui, mais c'est vrai que, bon, comme toutes les femmes, on gère le linge, les courses, les repas, l'exploitation, les papiers.
Alors, d'abord, vous allez après nourrir les vaches.
Voilà, tout à fait.
La litière. Enfin, voilà, y a tout plein à fait. De choses à faire, quand
donc,
même.
On s'est calé avec mon mari. Moi, je m'occupe le matin de mes enfants et mon mari s'occupe des vaches et après tout ce qui est travail, après ça dépend ce qui est soin des animaux, les périodes de vélage, c'est-à-dire quand les veaux vont naître, soin aux animaux, on le fait à tous les deux, on travaille toujours
sur l'après-midi jusqu'à à peu près quelle heure?
Voilà, il n'y a pas d'heure, alors après moi je gère en fonction des enfants, un qui finit à 4, l'autre à 5, l'autre à 6, donc
et souvent... vous repartez après à la ferme,
voilà,
pour finir le soin
tout
des
à fait.
Animaux,
voilà, on travaille ensemble et on gère, alors ouais. C'est vrai que souvent...
Donc, il y a des enfants un petit peu autonomes aussi quand même.
Ah oui, donc c'est vrai que très tôt, ils ont été autonomes. Bon, maintenant, ils sont grands. Et je pense que le fait de les avoir rendus autonomes et de les avoir impliqués dans notre vie... moi, j'ai 2 filles et 1 garçon. Et c'est vrai que moi, mes filles, elles sont très, très féminines. Et pour la preuve, en plus, elles font toutes les deux du rugby. Moi, je me dis quand même, je suis passée... j'ai pas tout raté, puisque je me dis, elles sont très féminines.
Elles sont
et le rugby, c'est quand même un sport de garçon. Et c'est vrai qu'elles aiment, bon, il y a le côté féminin, mais elles aiment être reconnues pour ce qu'elles sont et il faut, on peut être féminine et défendre ses idées et je pense qu'elles ont pris le côté de la maman et mon fils est pareil, il est très...
il est engagé aussi.
Oui, ouais. Voilà. Et il aime défendre les femmes, il n'aime pas l'injustice et on s'aperçoit que...
Oh, il n'a pas le choix de toute manière.
Oui, voilà,
dans
il
n'a
pas
famille
le choix.
Voilà.
Et on s'aperçoit qu'avec les valeurs qu'on leur transmet, ouais. L'homme égal à la femme, se défendre, s'assumer. Oui, voilà.
Ouais, c'est une éducation,
et c'est pas par, voilà, c'est pas par naturel, notre éducation ouais. Et par l'intermédiaire des enfants et des conjoints qui font qu'ils s'assumeront.
D'accord. Et alors, votre engagement dans le syndicalisme agricole, là, ça prend quoi? Un quart d'heure dans votre journée, une journée par semaine, une journée par mois? Vous arrivez à le quantifier parce que c'est quand même du temps de s'engager.
C'est beaucoup de temps, oui, beaucoup d'énergie.
C'est des soirées, j'imagine,
oui,
très longues
aussi.
Oui,
c'est des soirées, des fois c'est des jours, des fois c'est des semaines. Après, on s'engage en fonction du temps que l'on a à consacrer, des dossiers qui nous tiennent à cœur.
Vous l'avez mesuré, ce temps, à peu près?
Non, jamais, parce que je me ferais peur.
D'accord. Donc, en fait, vous dormez peu, j'imagine.
Les nuits sont courtes, oui, c'est vrai.
C'est quoi, 5-6 heures?
Ça dépend. Ouais. Des fois, c'est 7-8 heures. Des fois, c'est 4-5 heures. Parce que c'est vrai que souvent, on a des réunions très tard ou des déplacements. Et moi, j'aime bien le matin être là pour mes enfants. Et quitte à ce que des fois, je dorme 2 ou 3 heures et je récupérerai plus tard. Après, bon, on jongle. Mmh.
D'accord.
Mais toutes les femmes ont ce souci. Mais c'est vrai qu'après...
Oui, mais vous avez quand même ces trois casquettes-là qui sont pleines, quoi.
Oui, enfin, et c'est vrai que bon, ma mère était engagée syndicalement. Et je l'ai toujours vu, oui.
D'accord.
Je l'ai toujours vu se battre pour faire que les femmes soient reconnues dans leur métier d'agricultrice.
Oui, parce qu'au départ...
Et soient pas la femme de...
Oui, parce qu'en plus, j'ai appris que encore certaines exploitations agricoles n'assuraient pas leurs conjointes.
Voilà, il y a beaucoup
C'est-à-dire
de femmes...
C'est-à-dire qu'ils vont assurer les animaux,
voilà,
les tracteurs, le matériel...
Ouais.
Mais la conjointe, qui est quand même ouvrière agricole, ne sera pas assurée.
Voilà.
Encore aujourd'hui. Hein.
C'est vrai. Et beaucoup de femmes se retrouvent à des retraites de misère parce qu'elles n'ont pas cotisé. C'est un gros débat. Mmh. Et c'est vrai qu'après, c'est un milieu, bon, des fois un peu macho. Mais moi, je vois, de par le syndicalisme et moi, de par les gens que je côtoie, on s'aperçoit que c'est quand même un milieu qui s'ouvre parce qu'il ne faut pas se leurrer. Là où il y a une femme, il y a une vie de famille derrière.
Bien
et
sûr.
C'est des structures qui avancent et on n'a pas le choix. Il faut avancer, il faut dégager
des
revenus.
Et c'est
des
fermes vivantes qui vont se moderniser, qui vont être ouvertes à la
modernité. Il y a un projet de vie et moi, j'ai toujours entendu ma mère dire, de toute façon, il y a 50 ans avant, les exploitations qui tournaient le mieux, c'était celles où il y avait une femme.
Qui tenait derrière.
Voilà. Et après, il y a le problème du célibat. Et c'est vrai qu'un homme ouvert, qui est bien, qui a eu de bonnes relations avec sa mère, aura de bonnes relations avec sa conjointe et ses enfants. Et ça passe par là.
Je pense que les exploitations. Ça fait un lieu de vie,
voilà,
réel.
Voilà, oui, oui. Hein. Mais nous, on est à deux sur la structure. On n'a que l'exploitation pour vivre. Donc, à un moment, il faut faire étudier les enfants, avancer. On est obligé de se surpasser, de se remettre en question.
Justement, est-ce que vous avez des idées en tant que femme pour dynamiser l'agriculture? Idées que les hommes. Peut-être autour de vous, sans les nommer, on n'est pas là pour faire un débat un peu stérile. Juste des idées que les hommes n'osent pas mettre en œuvre, par peur de quoi, je ne sais pas. Est-ce que vous vous dites depuis longtemps, mais quand même, il faudrait faire ça. Et je trouve que les hommes autour de nous sont frileux, n'oseront jamais le faire. Je ne sais pas, c'est un peu compliqué comme question.
Oui, j'ai pas d'exemple à vous fournir là. Mais c'est vrai que bon, moi, ce que je trouve des fois quand on va dans des réunions, je trouve bon, on dit que les femmes parlent, mais les hommes ils parlent des fois pour rien dire.
Ils sont devenus extrêmement bavards.
Et je trouve qu'on manque d'efficacité. Moi, si j'ai, je me dis, j'ai une réunion, j'ai 3 heures, j'en ai pas 4. Voilà. Donc après, je trouve des fois ils parlent beaucoup.
Ils s'écoutent parler aussi.
Pas toujours. Si, ils s'écoutent parler, mais le temps que tous, ils montrent leur exemple, leur ci, leur là, il y a des fois où on manque beaucoup de concret et d'action. Des fois, je trouve qu'on perd du temps efficacement.
Très pragmatique.
Voilà. Et nous, les femmes, on est habituées, vous voyez bien, on mange, on surveille ce qu'il y a dans la poêle, on va mettre une machine. Alors que les hommes, ils arrivent, ils sont là. Ah, mais je peux me reposer. Non, mais non, moi, je me repose pas. Je continue. Donc, on manque un peu de dynamisme
et d'action.
Et d'action,
surtout,
oui.
C'est beaucoup de verbiage,
Voilà. Et c'est vrai que même moi, au niveau mandat syndical, des fois, je suis choquée. On peut prendre sa vice remplacement pour travailler sur l'exploitation.
Tout à fait.
Moi, je me dis, pourquoi on peut pas prendre une femme de ménage?
Bien sûr. On vous le propose pas.
Non, et d'accord. C'est vrai que moi, ça me choque. Moi, je m'organise, j'ai la chance, mon mari fait le travail sur l'exploitation, arrive à gérer les enfants quand moi, je suis pas là. Mais moi, le ménage, le linge, le repassage, personne ne vient me le faire.
Donc,
et c'est vrai qu'il y a des petites idées. Bon, on a avancé, il y a le congé paternité, bon, maternité,
oui,
tout ça.
Oui, ça, c'est récent. Oui.
Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, mais après, c'est à nous, les femmes, à s'engager, toujours trouver des idées,
tout
des solutions pour avancer. Si on veut qu'il y ait des femmes, il faut en passer par là.
Tout à fait. Justement, est-ce que vous avez subi dans votre parcours et dans votre engagement, des remarques machistes, vous pouvez en citer bien sûr, qui ont été sévères, dures à digérer, enfin comment vous l'avez vécu parfois?
Non, après je pense que moi j'ai pas été confrontée réellement à ce problème, au contraire, moi j'ai souvent travaillé avec des hommes et c'est vrai que je me plais à travailler avec un milieu d'hommes, pourtant je suis très féministe, je défends ma cause, mais c'est vrai que les hommes sont très ouverts à nous de prendre la place et de se défendre. Je pense que les hommes ont besoin de travailler avec des femmes. Après, bon, il y a des choses chose, moi je veux dire une réunion, si je, ces 4 heures qu'elles soient terminées, parce qu'après on a notre vie. Et moi j'ai pas été vraiment
jamais bloquée. Vous avez eu des remarques idiotes?
Non, d'ailleurs la preuve, quand j'ai été élue à la tête de la section bovine, je voulais pas, parce que je me disais c'est avec une femme, bon. J'avais envie, mais moi je voulais avoir l'aval après de mes collègues. Ils m'ont dit, si Valérie, c'est bien, une femme, tu te rends compte, il n'y en a pas au niveau français.
Ah, vous êtes
à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y en ait.
Bravo.
Tu te rends compte, pour l'Aveyron, c'est quand même bien. Donc après, c'est
vrai
que
quand l'Aveyron n'est pas un pays machiste. Hein,
c'est vrai qu'ils sont prêts. Après, bon, je pense que des fois, les femmes, on part avec des a priori. On a peur de rester en arrière et de ne pas avancer. Et moi, on m'a toujours ouvert la porte. Et c'est vrai qu'après.
Et vos parents vous ont soutenu aussi, par l'exemple
toujours.
De votre. Votre maman peut-être,
ouais, c'était ma maman pas... et même mon mari, la preuve est qu'en 2012, moi il m'a pas forcé, mais il m'a fortement conseillé. J'ai passé mon poids lourd sur super lourd. Je conduis maintenant un camion remorque chargé de paille et
de
bestiaux.
De combien de tonnes?
Eh bien maximum 45 tonnes. Donc,
un gros bébé là aussi.
Oui, et c'est vrai que mon mari me disait, oui ma terre, on se retrouvera, je suis tout seul.
Au cas où.
Mon beau-père le conduisait, il me disait, à terme il faudra, si t'es agricultrice, il te faut y aller. Et c'est vrai qu'on a besoin des fois d'être stimulé parce qu'on se sous-estime.
C'est ça,
et quand
ça
j'ai fait, passé mon poids lourd, le moniteur m'a dit, mais tu sais, les femmes réussissent mieux que les gars.
Elles sont appliquées.
Alors pourquoi? Parce qu'elles se sous-estiment et qu'elles travaillent deux fois plus que les hommes. Et j'ai trouvé ça très bien.
Bon, c'est vrai on va peut-être moins c'est se sous-estimer et travailler un peu moins.
Non, mais c'est vrai que, voilà. Mais on a un potentiel énorme et je pense que les hommes sont prêts à nous ouvrir certaines portes, à nous de les prendre, mais après, c'est une reconnaissance et... C'est lui qu'il faut sauter sur l'occasion.
Et alors justement, vous êtes montée à Paris en 2015 manifester en décembre. Heureusement, la journée a été belle et sans heurte, parce que du coup, c'est marqué dans les annales. Et alors justement, vous êtes arrêtée aux portes de Paris à 150 km. Vous avez déchargé votre tracteur vous-même de votre camion.
Oui.
Et donc, vous avez conduit votre tracteur à Paris. Quelque part... Moi, j'imagine une petite fierté, même si c'était effectivement un fort engagement pour sauver votre profession. Mais quelque part, c'est aussi pour dire, les mecs, je sais faire. Est-ce que vous aviez ce sentiment-là en disant, moi aussi, je peux être là?
Oui, il y a toujours un sentiment de fierté et de reconnaissance. C'est vrai que il y a très peu de femmes, et même si le milieu se féminise de plus en plus, on voit des jeunes qui arrivent, moi je leur lève le chapeau, elles m'épatent. Hein.
Ah oui?
Ah oui, il y a des femmes qui sont hyper autonomes.
Elles ont peur de rien?
Ah non, elles ont peur de rien, mais c'est très bien.
Elles ont un langage libre.
Oui, voilà. Très bien, parce qu'après tout, on a besoin de femmes comme ça, et c'est vrai qu'il y a une fierté. C'est vrai que dans la manif, moi j'étais sur mon tracteur, quand je me retournais, il y avait que des hommes, je me suis dit, mais...
Vous avez sorti votre rouge à lèvres dans le rétroviseur.
Non, mais c'est vrai, après, ça pose des problèmes. Nous, on était bloqués porte d'Italie, tous les mecs, ils sortaient, ils allaient faire pipi. Moi, je me dis, ben, moi, comment je fais? Et ben, je me suis pas démontée. J'ai tourné la roue du tracteur, je me suis mis dessous, j'ai fait pipi et je suis remontée.
Porte d'Italie, Valérie
voilà,
Lambert a fait pipi.
Et après, c'est des anecdotes, mais bon, malheureusement, comment on fait?
Voilà. Oui.
Mais je me dis, même s'il y en a un qui me voit les fesses, c'est pas grave.
Il aura gagné sa journée.
Après, il faut pas se démonter, il faut avancer, mais c'est vrai que, faut pas se sous-estimer.
Et des fois, c'est quand même dur. Enfin,
c'est dur parce que c'est quand même un métier qui est physique. Nous, on travaille avec du vivant, avec, vous voyez la taille d'une vache, je veux dire. Si une vache vous recule dessus, même un homme, il se fait,
Il y a eu des accidents, bien sûr.
Donc après, la différence qu'il y a, c'est que une femme,
comment elle mène le troupeau?
Eh bien, plus à l'intuition,
à la voix.
On est peut-être plus maligne et plus douce et plus patiente que les
hommes. Et vous leur parlez plus aux bêtes?
Moi, je vois mon mari, des fois, il
est leur
toujours
parle
pressé,
pas.
Mais je dis non, mais prends 5 minutes, des fois, de perdre 5 minutes, d'y aller. C'est une vache, elle a un cerveau. Si vous allez la voir tous les matins, que vous allez la caresser.
Oui, plus on est humain avec elle, plus elle sera douce.
Quand vous lui donnez un peu de farine ou un peu d'air, voilà, il y a le côté sentimental. Si vous allez la voir régulièrement, elle n'aura pas peur de vous. Alors que si vous rentrez dans l'étable ou dans la stabule et que vous la tapez pour la faire avancer, eh bien, je regarde, à un moment, ça ne peut pas le faire.
Mais elle va charger, bien sûr.
Voilà, donc il faut pas oublier qu'on travaille avec du vivant, que même si ce sont des animaux, la vache, elle défend son veau, donc après, il ne faut pas aller l'agresser.
Et ça, une femme peut le comprendre. voilà. aussi.
Il y a des choses qu'on peut comprendre. Même au moment d'un village.
En plus, c'est des braves bêtes. Enfin, les ombraques, elles sont quand même.
Tout à fait.
Elles sont un peu placides, mais bon, quand elles chargent, elles chargent. Hein, mais,
voilà. C'est... Après, elles défendent leur veau. Même quand on met au monde d'un veau, il y a des fois où. Moi, je dis à mon mari, si tu avais vécu, un accouchement, des fois, tu serais pas si pressé de sortir le veau.
C'est ça.
Il vaut mieux attendre 5 minutes et attendre que le passage de la vache se fasse bien. Alors, dans tout autre temps, quand une fois qu'on sait que le veau est bien engagé, que tout va bien, alors que non, les hommes, souvent, c'est vite, vite, et après, pour faire quoi? Pour attendre? Non. Il vaut mieux prendre
tout
le temps et laisser faire la nature, voilà.
Et leur parler tout en douceur.
Tout à fait.
Bon, et juste pour conclure, une anecdote, L'amour est dans le pré, donc est une émission qui doit avoir plus de 10 ans peut-être maintenant, je ne sais pas. Plus globalement, qu'est-ce que vous pensez du célibat dans l'agriculture? C'est un fléau, on peut le voir un petit peu, mais est-ce que justement ça bouge? Qu'est-ce que vous en pensez?
Après, je suis pas sûre qu'il y ait plus de célibataires dans le milieu agricole que dans la France en général. Après, les gens qui se retrouvent célibataires, c'est pas forcément lié au problème de l'agriculture.
Moi, j'ai beaucoup la mécanisation.
De jeunes, oui. Moi, j'ai beaucoup de jeunes autour de moi. Après, une personne qui est ouverte, qui a compris que s'il veut trouver une conjointe, il faut pas passer tout son temps à la stabu ou sur le tracteur. Je veux dire, après, il faut être ouvert. Je dis pas que ce sont des personnes fermées. Mais bon,
j'en connais qui sortent énormément, qui régulièrement sont dans des soirées, etc. Quand même en Aveyron, il y a des filles qui ne veulent pas s'approcher d'un agriculteur. Enfin, il y a un frein là-dessus, alors que pour moi, c'est une des plus belles professions du monde. Et, enfin, bon,
moi, c'est vrai que moi, je dis souvent qu'on a la chance de faire le plus beau métier du monde.
Et l'amour est dans le pré, il y a contribué quand même. On peut s'en moquer, mais je pense que ça a donné quand même une image assez belle.
C'est vrai qu'il faut se méfier des caricatures. C'est vrai, quand on fait voir l'agriculteur au fin fond du département,
Ils sont quand même isolés. Enfin, sans parler de gamins arriérés, mais il y a quand même autrefois une exploitation était un lieu de vie.
Il y avait plus de personnes sur les exploitations, mais après je pense que...
Et aujourd'hui, il est seul quand même, avec son GPS, son tracteur, son machin, le robot de traite.
Il ne faut pas rester isolé sur l'exploitation, il faut avoir une vie
sociale.
Mais
c'est pas évident de les forcer à sortir.
Voilà, mais après, bon, c'est le caractère de chacun, il y aura toujours des célibataires dans tous les milieux. Après, c'est à chacun à se prendre par les mains et de dire, bon, mais si je veux trouver quelqu'un, à un moment, il faut être ouvert, et c'est vrai que c'est pas en restant... toute la semaine,
oui,
tout seul.
Oui, parce que ça peut être un métier prenant, quand même.
Oui, enfin, après, c'est un métier qui est très
prend 24 heures de votre vie, si vous le voulez.
Oui, mais après, moi, je vois...
Pas plus que n'importe quel autre chef d'entreprise.
Voilà, tout à fait. C'est comme dans tous les
boulots. Oui, il y a quand même les animaux, enfin... Tu vis à côté, quoi.
C'est vrai, bon, c'est prenant, mais après, moi, je vois, j'ai 3 enfants. Sur les 3, j'espère qu'un reprendra. Après, chacun fera quoi.
Oui, alors, justement, on va dire leur prénom, le prénom du mari aussi.
Donc, mon mari, c'est Sébastien.
Bravo, Sébastien, d'encourager Valérie.
Oui, tout à fait. Après, moi, j'ai 3 enfants. Eugénie, qui passe son bac, là, qui aura 18 ans.
D'accord.
Paul, qui a 14 ans, qui est à Londres en ce moment.
Paul, how are you?
Voilà. Et Faustine, qui est en 6e. Donc, tous les 3 aiment le métier d'agriculteur. D'ailleurs, nous, on les fait suivre. Ils viennent avec nous.
Ils vous aident. Oui.
Ah oui, oui, oui. Et on voit que déjà, ils ont l'instinct de côtoyer les animaux, de faire attention, de conduire un tracteur, de venir nous aider. D'ailleurs, on déplace, on change les animaux de parcelle à parcelle le samedi ou le mercredi après-midi.
Pour qu'ils soient là.
Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que si on veut s'ouvrir aux autres et qu'il y ait des jeunes qui restent sur nos exploitations, il faut qu'on leur donne envie, déjà qu'on dégage un revenu, qu'on puisse prendre du temps libre. C'est vrai qu'on a l'astreinte des soins aux animaux, mais moi, rien ne m'empêche, quand c'est le moment des soldes, de partir avec mes filles ou avec mon garçon,
de se faire
de
plaisir,
venir prendre une après-midi. Ça nous est arrivé de monter à Rodez ou d'aller à Toulouse faire les soldes, de se promener. Il suffit que vous organisiez bien votre travail, que le travail soit fait. Et entre le soin des animaux matin et soir, il y a la journée. Puisqu'on ne fait pas demain, on le fera. Ce que je ne fais pas aujourd'hui, je ne le fais pas demain. Après, c'est pour tout chef d'entreprise. Il suffit d'être hyper organisé. Et je pense que si on veut qu'il y ait de l'avenir sur nos exploitations, il faut se donner les moyens et faire que le métier soit attractif. Puisse vivre, être dynamique.
Et se donner du temps.
Voilà,
d'accord.
Tout à fait. Partir en vacances, même si on n'en prend pas énormément, on peut prendre une semaine, l'été ou l'hiver.
Bon.
Il y a des moyens pour s'organiser.
Très bien. Merci Valérie Imbert pour ce bel engagement. Donc, je répète, vous êtes secrétaire générale de la FDSEA. Pardon, secrétaire générale adjointe. Attention, faut pas choquer. Ouais. Voilà, donc de la FDSEA de l'Aveyron, également présidente de la section bovin-viande. Merci Valérie.
Merci à vous.
À très bientôt. Alors, justement, pour encourager le travail de Valérie et son engagement, on vous dédie cette chanson, Olympe de Gouges, des Femmes Moustées.
su ou inventé. Et sûr que tu as gêné les nantis, les négriers, les voisins et le clergé. L'Olympe au naturel, fille de Pompignan, Olympe universelle et fille de Montauban. Olympe au naturel, fille de Pompignan, Olympe universelle et fille de Montauban. Yeah.
Je me tourne vers Pénélope qui, pour cette spéciale Wonder Woman échappée belle, a souhaité inviter une représentante du planning familial. À toi Pénélope.
Oui, alors nous recevons aujourd'hui Marie-Françoise Larnoudi qui est membre donc du conseil d'administration du planning familial donc Aveyron. Je la remercie beaucoup d'être venue et comme le disait Valérie tout à l'heure, les hommes sont aussi présents dans cette action et effectivement le représentant national qui est dans votre conseil d'administration est un homme et il aurait bien voulu être là aujourd'hui mais d'autres obligations l'ont retenu. Je trouvais que c'était important de le préciser.
Merci de votre invitation dans ces circonstances très particulières pour les 60 ans du planning familial.
Avec plaisir. Alors avant de parler justement des 60 ans ou pour parler des 60 ans, est-ce qu'on peut faire peut-être pour les plus jeunes un petit rappel historique de ce qu'est le planning et de ses missions?
Alors, ça risque d'être un peu long, mais je vais résumer.
Il ne faut pas.
Disons que le planning familial, il existe depuis le 8 mars 1956.
Ouais.
Il s'appelait, d'un nom très timide, il s'appelait la maternité heureuse. Et puis très vite, 2 ans après, c'est devenu Mouvement français pour le planning familial. Et l'objectif, c'était à ce moment-là, surtout de parler de contraception, puisqu'il y avait une loi 1901 là qui interdisait de parler de contraception et qui punissait même de prison toutes les femmes qui avortaient. Donc le planning familial au départ s'est battu sur ça. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, des contacts de terrain, des rencontres avec la plupart des femmes avec qui on travaillait, le planning familial a évolué petit à petit et il se définit, je saute 40 ans, et il se définit actuellement comme un mouvement féministe mixte, oui, laïque et d'éducation populaire au sens éducation populaire où chacun peut prendre en main son autonomie, sa vie, ses décisions, et en particulier dans le domaine donc de la contraception, etc., les grossesses, les sexualités.
Mais voilà. C'est un mot très important, éducation, justement.
Voilà. Ouais. Éducation populaire.
Ouais, c'est très bien. Est-ce que justement, au niveau de votre action, est-ce que vous avez des chiffres sur le département?
Alors, des chiffres sur le département, nous sommes, alors je vais commencer petit, deux groupes locaux, un à Millau, un à Rodez, 35 adhérents, dont une dizaine d'hommes. Et ensuite, nous intervenons dans plusieurs domaines, en particulier, alors je vais faire toute la liste, je vais résumer, l'éducation à la vie affective et sexuelle, qui s'adresse en particulier aux jeunes, qu'ils soient scolarisés ou non, en foyer de jeunes travailleurs, en centres sociaux. Je vous donne pas les chiffres de 2015 parce qu'on est en train de préparer le rapport d'activité, mais en 2014, on a touché plus de 600 jeunes dans nos interventions éducation à la vie affective et sexuelle. On intervient aussi, on a un programme qui s'appelle Handicap et alors ? Donc sur la thématique handicap sexualité, parce que on considère que les personnes handicapées ont aussi une sexualité ou des sexualités comme on veut. On intervient aussi sur les violences faites aux femmes, que ça soit dans le domaine privé ou public. Et sur Millau en particulier aussi sur les mariages forcés. On participe à des actions de lutte contre les IST et le VIH-Sida. Et on intervient également, du coup j'ai un trou, contre les discriminations, quelles qu'elles soient. Et en particulier, bien entendu, les discriminations de genre. Et là, on intervient chaque année à la journée de lutte contre les discriminations auprès des enfants du primaire. Et l'an dernier, on a rencontré 150 enfants du primaire. Voilà.
Donc vous avez une action qui est très très large, c'est bien de le rappeler, parce que je crois que souvent on a peut-être tendance justement à limiter votre action sur l'IVG, alors que justement on voit que vous avez un travail d'éducation, et c'était important puisque ça va en amont de l'action où une jeune fille et son compagnon viennent vous voir pour un IVG. Depuis plusieurs années, on entend parler des difficultés financières, voire de la suppression des plannings, donc par rapport à ça, vous vous êtes battu, vous avez fait entre autres une pétition récemment qu'on a pu voir passer sur les réseaux sociaux. Vous en êtes où aujourd'hui ?
Alors, il y a toujours des menaces. Ça s'est un peu stabilisé, mais il y a toujours des menaces tant au niveau national que local. On a des subventions, mais toutes ces subventions, on fonctionne que comme ça. Et ces subventions sont de toute manière ou stables ou en baisse. On a embauché il y a 2 ans et demi une salariée pour le département qui est sur Millau, et on envisage d'embaucher, vu le développement de toutes nos activités, toutes les sollicitations qu'on a, notamment, enfin de plusieurs structures, d'embaucher à temps partiel aussi quelqu'un sur Rodez. Mais tout ça, ça a un coût.
Bien
donc,
sûr.
Voilà.
D'accord. Alors justement, si nous, en tant que particulier, on a envie de vous aider, on peut vous retrouver donc pour un événement grand public, ce qui est assez rare. Vous fêtez donc les 60 ans du planning familial, donc au niveau national, j'imagine, et au niveau local. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour cette occasion ?
Alors, au niveau national, il y a un événement qui s'appelle Simone Forever. On fête toutes les Simones, à commencer par Simone de Beauvoir, Simone Veil, elles sont connues, et Simone If, qui a été la première présidente du planning familial, qui est décédée il y a 2 ans, là. Voilà.
D'accord.
Donc c'est toutes, et puis c'est les 3 Simones célèbres, mais c'est toutes les Simones, entre guillemets, du monde entier, enfin de la France entière, pardon. Quoique nous avons une section internationale aussi au planning. Donc ça, c'est nationalement. Il va y avoir une intervention au Sénat le 4 mars. Le spectacle, donc Simone Forever, le 7 mars à la Cigale. Et dans les événements nationaux, avant de passer à l'Aveyron, le Grenoble, le 1er avril, qui a une journée qui fait, c'est une journée de fête anniversaire, parce que Grenoble a été le premier groupe du planning familial à être créé avec Paris en 1956.
D'accord, c'est historique.
Donc là, cette année, c'est
historique.
Ça fonctionne. 3 jours, il y a un congrès.
Et donc sur Rodez ?
Alors, à Rodez, on avait déjà choisi le titre avant Simone Forever, on l'a appelé les PP, présent, passé, présent, et pour montrer que toutes les luttes ne sont pas acquises, hein, tous les combats continuent, passé, présent et à venir. Alors, il y a 2 événements très importants. On a envie de le faire de manière festive. Donc, un concert avec deux groupes. Un qui s'appelle, elle s'appelle Madame Dame.
Ouais.
Et l'autre, My Imaginary Loves. Bravo l'accent anglais.
Donc, ce concert aura lieu.
Ça, c'est le 12 mars.
Ouais.
Au club.
Au club, le 12 mars.
Nous invitons cordialement hommes et femmes à venir. Et ensuite, on a toute une série d'événements sous forme de performances, de films, de débats. Et en deuxième partie du mois de mars, en partenariat avec la Chambre Télémaque d'Auray-le-Château, sur la thématique 65, c'est pas si loin, puisque 1965, c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu, les femmes, travailler sans l'autorisation du mari ou du papa.
D'accord, très bien. Voilà. Ben, merci beaucoup encore de votre venue.
Et merci
et
à
nous
vous.
Ne manquerons pas de vous faire revenir pour une autre occasion.
Merci Marie-Françoise Larnaudy, merci de votre présence donc du planning familial de l'Aveyron. On va enchaîner sur les rues Ténéco avec donc des actus locales où la femme est à l'honneur. Donc c'est René qui ouvre la marche, vas-y René.
Oui, alors rendez-vous le 16 mars en ce qui me concerne à 16h au club au pied de mon arbre. Alors non, c'est au pied de mon arbre, c'est bien le titre d'une fable écologique proposée par la compagnie éphémère. Donc c'est une histoire qui raconte une histoire d'amitié entre un petit garçon et un arbre. Musique et poésie seront au rendez-vous. Le tarif est de 6 euros. Il y aura un goûter offert. Et pour plus d'infos, contactez donc l'asso Hoc Live sur son site internet hoc-live.fr.
Très bien. Christelle, je crois que tu veux nous convaincre d'aller au cinéma voir un merveilleux documentaire sur le docteur Mukwege, n'est-ce pas?
C'est ça? Oui, le documentaire s'appelle « L'homme qui répare les femmes ». Il est proposé par l'association Lumière 12 au Cap Cinéma du 2 au 8 mars. L'homme, c'est donc Denis Mukwege, un médecin gynécologue congolais spécialiste de chirurgie réparatrice depuis 15 ans. Et les femmes, ce sont celles de la région du Kivu, à l'est du pays. Des mères, des adolescentes, des fillettes, violées et mutilées par des groupes armés, hommes de main, souvent très jeunes, de ceux qui convoitent l'exploitation des richesses du pays. Le documentaire présente le quotidien de cet homme et de quelques-unes de ses patientes et dénonce le viol utilisé comme arme de guerre. Un film très dur, forcément, mais indispensable pour ouvrir les yeux sur ces actes barbares, mais aussi faire connaître le combat de ceux et celles qui font tout leur possible pour redonner de la dignité à ces victimes.
Je voilà. crois que ce grand homme a eu des prix.
Il a eu beaucoup de prix, mais après, des prix, qu'est-ce que ça fait, quoi?
Oui, mais déjà, au moins, on parle de lui à l'échelle mondiale. Donc, le documentaire, L'homme qui répare les femmes au Cap Cinéma du 2 au 8 mars. Alors, moi, je vais juste annoncer que, en raison de la journée de la femme du 8 mars à 20h à la Chapelle Royale de Rodez, sachez que le CDIF de l'Aveyron, le Centre d'information du droit des femmes et des familles, co-organise avec Grain de Phonie un concert intitulé « Des paroles et des notes » avec 5 femmes musiciennes. La participation est libre, donc 8 mars, 20h, Chapelle Royale. Ensuite, il y a un café égalité proposé aux chefs d'entreprise et encadrants le jeudi 10 mars à 17h à la Maison des associations de Rodez pour inciter la prise en compte de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les entreprises aveyronnaises. À présent, je passe la parole à Maya qui va nous annoncer une actu sur également le 12 mars, je crois.
Tout à fait. Pour la journée de la femme, le 12 mars, il y aura une animation par le Sakura Karaté au dojo de Rodez et au profit de la CAMI, cette association pour le sport et cancer. Donc le 12 mars, rendez-vous au dojo de Rodez de 11h à 17h avec les incontournables activités qui sont le body karaté et le médiété que je vous invite à découvrir et des nouveautés. Que vous connaissez sans doute, Zumba, Piloxing et Salsa. Réservez la date et vous ferez en plus une bonne action au profit de la CAMI.
Très bien. Maintenant, il est l'heure de tourner la page de cette émission spéciale Wonder Woman en l'honneur de toutes les femmes. Ne laissons pas l'encre se sécher sur cette page. Pour les ignominies faites aux femmes, agissons la tête haute avec les idées claires à chaque instant. Je me tourne à présent vers les échappées belles pour saluer leur engagement à mes côtés. Christelle, Pénélope, René, Maya, merci les filles. Un grand merci également aux invités qui sont venus à cette table. Et une petite pensée pour Anna qui nous manque. Merci donc à David et à CFM Rodez qui nous donnent la chance de pouvoir nous exprimer en totale liberté. Merci CFM Rodez. Pour finir en beauté, je donne la parole à la reine du rock'n'roll avec un live enregistré à Wembley en 2010. Donc c'est Tina Turner. En l'an 2000 avec la chanson Proud Mary, Tina Turner donc qui a su dire merde en beauté à l'homme qui l'a bêté. Allez, tchuss et bis à l'œil.
This is the way we do. Proud Mary. And we roll.